Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur l'émission de philosophie Les Neveux de René, Chemin de pensée. Nous continuons notre cheminement avec René Descartes, la pensée de René Descartes. Puisque nous sommes les neveux de René, nous essayons d'étudier le penseur qui a donné le nom à cette émission, son nom à cette émission. Et Nicolas va nous faire le résumé de l'épisode passé.
Alors, nous sommes entrés pour de bon dans le discours de la méthode, ou plus exactement le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, si on donne le titre complet. Alors, dans ce livre, Descartes nous propose une sorte d'autobiographie intellectuelle, une histoire de son cheminement personnel, qui commence par l'état d'insatisfaction dans lequel l'a laissé sa brillante éducation au Collège de la Flèche. Il a étudié beaucoup de sujets, les mathématiques, dont il estime beaucoup les certitudes et les évidences qu'elles permettent d'atteindre, mais sans qu'elles soient appliquées à autre chose qu'aux arts mécaniques. Alors que ce qui intéresse, c'est des sujets plus relevés également, comme la morale, comme la façon de conduire sa vie. Et pour cela, eh bien, il y a la théologie qui permet de gagner le ciel. Mais en l'espèce, il dit que c'est ouvert à tous, ignorants comme savants. La philosophie, où il relève beaucoup de contradictions. Et pour lui, qu'il y ait autant de contradictions, ça veut dire que personne n'est dans le vrai. Et puis après, les autres sciences qui, trop souvent à son goût, sont plongées dans l'à peu près, sont le fruit de savoirs, sont des savoirs qui sont le fruit du hasard. Et il propose, pour rebâtir l'édifice des connaissances, une méthode. Une méthode que nous allons découvrir aujourd'hui en détail.
D'accord. Alors simplement, on peut dire que cette méthode, elle tranche avec tout ce qui a été donné auparavant, d'accord ? Puisque Descartes va nous dire, en gros, à coup sûr, à ma méthode, si je m'y prends bien, je vais arriver à connaître ce que je dois connaître. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui va nous falloir, dont nous allons devoir discuter. Et puis j'avais rappelé en fin d'émission dernière que Simone Veil avait écrit « Il me semble que tout ce qui s'est passé depuis 3 siècles pourrait, si on voulait se résumer en ceci, que l'aventure de Descartes a mal tourné. » Alors ça aussi, on pourra y réfléchir lors de cette émission. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là dans sa réponse à une lettre d'Alain ? Alors peut-être on peut faire connaissance avec la méthode en question.
Avant d'enchaîner sur la méthode, j'aurais aimé quand même rappeler que les Grecs n'étaient pas non plus opposés à cette démarche de connaissance et de soucis de cohérence et d'argumentation. Hein. Dans leur travail, et notamment dans la dialectique chez Socrate, il y a quand même ce souci d'argumenter, et il y a quand même une suite logique aussi qui se fait. Simplement, le problème, c'est qu'il n'y a pas une méthodologie, si ce n'est la dialectique elle-même, mais il n'y a pas une méthodologie décomposée comme va le faire, justement.
Puis il y a un problème de rapport au réel aussi.
Et quelque chose d'autre que je voulais dire aussi, excusez-moi, oui, tu disais le rapport au réel, on va y revenir, mais... Entre Descartes et les Grecs, il y a évidemment un écart qui est très grand. Et nous, notre but dans cette émission, c'est de montrer l'unité qu'il y a entre ces choses-là. D'accord ? Oui. Pourquoi ? Parce que souvent, le reproche qu'on fait à la philosophie, c'est le reproche que Descartes, que tu as très bien résumé, Nicolas, à savoir, les gens, ils sont même pas d'accord entre eux, c'est des écoles, et ainsi de suite. Or, ici, on essaye de dégager ce qui fait l'unité de la philosophie, d'accord ? Et donc, on a vu qu'il y a un questionnement par rapport à la question de la vérité, et qu'est-ce qui fait la vérité des choses, on va essayer petit à petit de dégager les points. Autre chose, entre Descartes et les Grecs, il y a eu d'autres philosophes, hein. Il n'est pas question de dire qu'il s'est rien passé entre. On va citer, par exemple, les noms de Saint-Augustin, d'Avicenne, donc Ibn Sina, qui est un philosophe perse, mais qui, je pense, écrit en langue arabe, j'espère qu'on pourra en parler, d'Averroès, donc Ibn Rushd, qui lui vivra en Andalousie et terminera au Maghreb, et puis saint Thomas d'Aquin. Hein, si on veut donner quelques petits repères temporels, donc je le rappelle, après Aristote et Platon, saint Augustin, Avicenne, Averroès, saint Thomas d'Aquin, et ensuite vient Descartes. Donc cette période-là, il s'agit nullement pour nous de dire qu'elle n'est pas intéressante philosophiquement, surtout pas, mais aussi une chose que les auditeurs peuvent retenir, c'est qu'il n'y a pas d'ordre chronologique hein, en philosophie. On peut commencer par Platon, on peut ensuite aller voir Descartes, revenir aux Grecs, oui, repartir. La philosophie n'a pas d'ordre chronologique, il y a un discours qui dépasse le temps entre les philosophes.
Et puisque tu parlais de l'héritage de Descartes, j'ai retrouvé chez moi un vieux grimoire.
Ah, d'une surprise. Ouh là là. Alors dommage que les auditeurs ne puissent pas voir l'état de ton.
Je fais
livre.
Craquer les pages.
Un très beau livre ancien.
Ça s'appelle Les merveilles de la science. C'est un livre qui date du 19e siècle.
Alors les pages se détachent, elles sont même pas reliées entre elles.
Donc, c'est de 68, mais pas 1968, 1868, ouais. Écrit par Louis Figuier. Et donc, c'est une sorte donc d'histoire des sciences, et puis à l'époque de la grande gloire de la technique triomphante, avec donc les machines à vapeur, la révolution industrielle, etc. Et voici ce qu'il dit. La science que nous désignons aujourd'hui sous le nom de physique n'existait pas chez les anciens. Quelques connaissances dues au hasard, ou introduite par la pratique des arts vulgaires, résume toute la physique des Grecs. C'est que l'art d'observer, le secret d'étudier un fait en l'isolant par une opération de l'esprit de tout ce qui l'entoure, fut à peu près ignoré des anciens. La poétique, imagination des philosophes de la Grèce, avait entraîné la science naissante dans une voie opposée à celle de ses progrès. Au lieu d'observer les choses qui tombent sous les sens, on cherchait à pénétrer la nature intime des phénomènes, à remonter jusqu'à la secrète essence de leurs causes. L'importance et la grandeur des faits attiraient surtout l'attention. On s'attachait obstinément à poursuivre des problèmes destinés à rester à jamais insolubles. On construisait l'univers avant de l'avoir entrevu.
Alors ça, c'est intéressant. On pourra pas évidemment y passer tout le temps qu'il faudrait y passer pour parler de ton commentaire, mais on voit que c'est le 19e siècle, on est en plein positivisme. Ça veut dire quoi positivisme? Ça veut dire un rejet de la métaphysique, hein, les problèmes insolubles, on les met de côté, on s'y attache pas.
Mais c'est ce que semble dire Descartes aussi.
C'est ce qu'il semble dire, mais on a vu dans la préface qu'il s'attache à montrer l'existence de Dieu, voilà. Il parle de l'âme. Tout ça, ce sera mis au rebut par le positivisme.
Et à cette époque, effectivement, on peut voir que les gens espéraient que les sciences et les technologies allaient sauver l'humanité d'une certaine façon.
Ah bah complètement.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire aujourd'hui, est-ce qu'on revient pas un peu à ça, notamment avec les sciences du numérique?
Voilà. Ah, on y revient, tu dis. À la fois on y revient et à la fois la catastrophe écologique, les problèmes politiques insolubles, tout ça nous montre aussi que, et puis toutes les catastrophes du XXe siècle, montrent que bon, cet espoir que l'humanité irait très très bien et guérirait de tous ses maux, on peut le questionner aussi. Hein,
parce que le problème des sciences, c'est aussi de les maîtriser. Quoi,
voilà. Et juste, je vais faire aussi un petit pas en arrière avant de te donner la parole pour lire la méthode. Tu as dit à Nicolas tout à l'heure dans ce que tu as lu, j'ai retenu, la physique n'existait pas chez les Grecs. Mm-hmm. D'accord, hein, c'est ce qu'ils ont dit.
C'est ce qu'ils ont dit.
Alors c'est très intéressant parce que physique, hein, même si on n'a pas fait de grec, on voit tout de suite que c'est un mot grec.
Oui.
C'est un mot grec. Et non seulement c'est un mot grec, mais physique, c'est un titre.
D'une œuvre d'Aristote.
Ouais, alors, il ne faut pas dire une œuvre d'Aristote parce que Aristote faisait des cours et donc ses cours étaient regroupés. Ce qui est intéressant, c'est que certains cours qui avaient trait à la nature, donc physis en grec, donc c'est de là que vient le mot physique, étaient regroupés donc, sous ce volume qui s'appelait physis. Et ce qui suivait, qu'on n'arrivait pas à mettre dans ce truc-là, on l'a mis dans un volume qu'on appelait comment ?
Métaphysique.
Voilà, métaphysique.
Méta donc, signifiant simplement après.
Après. Ici, méta, c'est après, voilà. Donc, c'est intéressant de dire, les Grecs n'y connaissaient rien en physique, alors que c'est eux qui ont inventé le terme. Voilà.
Ouais, c'est
alors, il y a quelque chose qui doit nous surprendre, qui doit attirer notre attention, mais je crois que c'est la réponse, c'est Descartes qui nous la donne, à savoir... Avec lui, un nouveau commencement de la physis, un nouveau regard sur la nature, sur la physis, va avoir lieu.
Mais je pense que c'est ça que Descartes finalement ne voit pas, c'est que finalement, c'est pas seulement une question de méthode, puisque les Grecs n'étaient pas sots, ils maîtrisaient tous les secrets de la logique. La logique, c'est aussi une
c'est
des autres
variantes. Logique, vient voilà, du mot logos.
Et puis Aristote avait fait à peu près tout le tour des formes de démonstration possibles en mathématiques. Mais ce qui change vraiment, c'est ce que disait l'extrait que j'ai lu, c'est que c'était un problème de regard sur le réel et la façon d'appréhender. Mm-hmm. C'est un changement de regard sur le monde.
Ouais. Et d'ailleurs, regard en grec, comment ça se dit, hein? C'est théoria, hein.
Faut pas
oublier le mot théorie. Aujourd'hui, on oppose toujours théorie et pratique, ce qui est impensable pour les Grecs. Alors, on va demander quelques comptes, à René. Et donc, Sylvain, tu peux nous lire, on va commencer à prendre connaissance de la méthode.
C'est ça. Donc, en fait, dans la méthode, il y a quatre grands principes, hein. Que René Descartes va...
Alors ça, c'est dans la deuxième partie du discours ou la troisième partie ?
La seconde partie. C'est dans la seconde partie. Et donc, alors bien sûr, il y a quelques explications introductives. Et puis, donc, on arrive vraiment au principe de la méthode. Donc, il y en a quatre. Donc, je vais vous lire déjà le premier. On va déjà pouvoir discuter un petit peu de celui-là. Donc, le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de la mettre en doute.
Alors là, on voit la puissance du doute, hein. C'est à voilà. Partir du doute. Une petite chose, un petit point technique pour nos auditeurs. On n'a pas proposé aux auditeurs d'acheter le discours de la méthode dans telle ou telle édition. Ouais. En revanche, il peut être bon d'essayer de se procurer un grand livre, malheureusement je ne pense pas qu'il ait été réédité, qui est le discours de la méthode commenté par Étienne Gilson. Alors, Gilson est un grand médiéviste, c'est quelqu'un qui connaît évidemment très très bien l'avancée de René Descartes. C'est pas nécessaire de lire ses commentaires dans un premier temps, il vaut mieux lire un texte brut. Mais ça a l'avantage qu'il a gardé la même pagination que l'édition de référence qu'on appelle l'édition Adam et Tannery. Et voilà. Ouais, et donc là, si on regarde d'après l'édition Adam et Tannery qui sert de référence, c'est page 18, lignes 15 et 16. Voilà. C'est des petits points techniques qui doivent pas faire peur aux auditeurs qui sont pas très familiarisés. Mais en général, comme il y a de nombreuses éditions d'un même texte, on se réfère à une édition précise
pour pouvoir repérer les passages,
et être d'accord.
Voilà. Tout à fait.
Alors, donc, premier précepte, hein, c'est « est tenu pour vrai ce qui résiste à l'emprise du doute ». Deuxième précepte.
Alors, le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Alors là, c'est rigolo parce que je peux pas m'empêcher en tant qu'informaticien de faire référence à une technique qu'on utilise en informatique pour résoudre certains problèmes qui est le diviser pour régner.
Oui.
Donc en fait, l'idée, c'est on part d'un problème, on le décompose en sous-problèmes, on résout les sous-problèmes et on recombine la solution pour arriver à la solution du problème initial, évidemment.
Alors Sylvain, je te propose même de faire quelques petits pas en avant par rapport à ce que tu viens de dire. L'ordinateur, tout le monde utilise des ordinateurs. Tout le monde utilise des
aujourd'hui,
ordinateurs.
Plus en plus
aujourd'hui,
oui.
À l'heure actuelle, là, on a Dominique qui est à la technique, qui s'occupe d'un ordinateur pour capter enregistrer nos voix. Ça va être un ordinateur qui va, bien sûr, commander à la diffusion de l'émission. On peut écouter cette émission sur l'internet. On peut télécharger. Bref, l'ordinateur est au centre de nos vies. Est-ce que tu peux donner quelques éclairages sur comment marche un ordinateur ? Je veux dire, on sait qu'il y a un microprocesseur qui traite des informations, mais comment ça marche ce microprocesseur ?
Dans les grandes lignes, on a un ensemble d'instructions élémentaires, et donc on a. Alors, il faut un programme évidemment. Hein, donc l'ordinateur, il y a des unités qui font des choses, des unités qui vont faire des calculs, etc. Alors les additions simples, par exemple, les opérations simples, pardon, mais bien sûr des choses un peu plus compliquées éventuellement. Et donc on va avoir une suite d'opérations qui va être lue et déroulée et exécutée, mais automatiquement. Hein.
Et finalement, la façon dont on divise n'importe quelle tâche que fait l'ordinateur. Hmm. Par exemple, l'ordinateur peut, on tape un texte et il peut corriger. Voir si il y a des fautes d'orthographe ou pas,
oui.
Avec certaines limites, hein, évidemment. Mais est-ce que c'est pas ça aussi ? Est-ce que c'est pas cette méthode cartésienne qui est appliquée dans l'ordinateur, histoire de diviser le problème ? Ah bah si. À savoir, je regarde la première lettre, la deuxième lettre, la troisième lettre, je cherche à chaque fois dans le dictionnaire pour arriver à savoir si le mot que j'ai écrit est correct ou pas correct.
Alors, effectivement, alors bon, pour de la correction orthographique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ceci dit, effectivement, l'idée, c'est on part d'un problème qui, au départ, peut nous paraître complexe et on va le décomposer en sous-problèmes. Par exemple, déjà reconnaître un mot. Après, reconnaître le rôle du mot dans une phrase, par exemple, etc., etc. Et donc, on va arriver comme ça à décomposer le problème de départ en sous-problèmes, et à chaque fois, en raffinant successivement les choses, on va arriver à des problèmes qui sont suffisamment simples pour être résolus directement. Mmh. Et on va pouvoir recomposer comme ça, après, bien sûr, la solution globale que l'on cherchait au départ.
D'accord.
Mais de façon plus ancienne, en physique, Newton et Leibniz ont fait la même chose en inventant le calcul infinitésimal. Une courbe, c'est compliqué. Tout ce qu'on sait faire, c'est des calculs de proportionnalité, des calculs linéaires. Et donc, on va approximer une courbe par une succession de petites droites. Et ça va être l'invention donc de la dérivée et du calcul différentiel.
Oui. Ça veut dire que quand on envoie une fusée dans l'air, on est dans cette application de cette
méthode. Tout à fait, on se ramène à chaque fois à des problèmes simples.
À des problèmes simples. Alors, vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter un petit chant romantique de Mendelssohn qui s'appelle Jagdlied, un petit chant de chasse.
Alors Nazim, je voulais te demander, qui chasse-t-on de manière si romantique ?
Mais que chasse-t-on ?
Que chasse-t-on ?
Nous sommes à la recherche de la vérité.
Donc nous chassons la vérité.
Et d'ailleurs, chez les Grecs, je crois que le vocabulaire de la chasse est utilisé par rapport à la vérité. La vérité, c'est, chacun peut le voir dans sa vie de tous les jours, c'est quelque chose qui fuit, qui est mouvant, qui est difficile à saisir. Et c'est ce que nous dit Descartes, c'est que si on veut s'en saisir avec toute la clarté requise, il nous faut des outils pour l'attraper. Il faut être très rigoureux. Ouais. Et donc, mais alors plutôt qu'une chasse, avec Descartes, ça va être une armée qui va, une armée bien en ordre qui va suivre le pauvre
chevreuil. Ça va être une chasse méthodique.
Voilà.
Où on va traquer
le pauvre
animal. La chasse à la vérité.
N'a aucune chance de s'en sortir. Voilà.
Une chasse sans précipitation.
Voilà.
On étudie le parcours de l'animal.
On va l'enfermer. On va l'enfermer petit à petit en réduisant son espace vital.
La radio des régions. RCF.
Alors Sylvain, tu veux nous lire la suite ?
Alors oui. Peut-être donc justement le principe était de diviser pour transformer un problème complexe en une succession de petits problèmes simples. Mmh. Évidemment, ce qu'on pourrait répondre à Descartes, c'est est-ce que tout problème peut être décomposé en problème simple. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes qui nécessitent d'être appréhendés dans leur globalité ?
Dans leur globalité, voilà.
C'est certain contemporain de Descartes qui va peut-être poindre cette.
Tu penses à qui ?
Oh.
Pascal. Pascal. Alors Pascal, on va y revenir. Je suis pas tout à fait de ton avis, Nicolas. Pascal est en opposition, en discours très très tendu avec Descartes. Mais est-ce que c'est sur ça qu'il va attaquer Descartes ? Est-ce que c'est sur ça qu'il va s'opposer ? On en reparlera. Essayons de parler des troisième et quatrième principes.
Nous avons donc vu les deux premiers. Voyons les deux suivants. Donc le troisième principe. De conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Voilà.
Peut-être tu peux relire la fin, juste.
Supposant même de l'ordre.
Non. Pour monter peu à peu, comme par degrés.
Voilà. Oui. Voilà. Pour monter peu à peu comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres.
Voilà. Vous voyez la force de la chose, c'est-à-dire Descartes est tellement obsédé par cette idée d'ordre qu'il faut procéder par ordre, qu'il dit, bon, Moi, je vais tout faire par ordre. Et même si l'ordre n'existe pas, je vais l'inventer, quoi. C'est ça, hein, en clair.
Et, voilà. Et d'ailleurs, en lisant ces mots en tant qu'enseignant, je ne peux pas m'empêcher de me demander si on forme toujours nos jeunes gens à une physique cartésienne ou à des sciences cartésiennes.
Mais, pourquoi tu dis ça?
Ben, disons qu'au lycée, on donne l'impression parfois de vouloir en mettre plein la vue aux élèves pour qu'ils éprouvent un intérêt pour les choses.
Oui.
Et on en est plus revenu aux jouets scientifiques des Grecs que dénonçait donc ce zélateur du progrès du 19e siècle que j'ai lu en première partie d'émission, que des choses visant à montrer et à suivre une méthode.
Oui, mais justement, est-ce que c'est pas intéressant d'en revenir à cette démarche un peu pré-cartésienne, à savoir, on va pas tout mâcher aux étudiants, aux élèves. On va les laisser s'émerveiller de la nature avant de leur donner les lois en elles-mêmes et l'ordre des étapes. Moi, je me suis, dans mes études, bigrement ennuyé en physique, parce que voilà, fallait suivre la première étape, la deuxième, la troisième, la quatrième, et finalement, si t'avais compris la chose, ça n'avait aucun intérêt. Donc, bon, il y a du pour et du contre, hein. Ouais, du pour et du contre. Alors, le dernier précepte qui nous est donné par Descartes.
Oui, et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. D'accord. Alors, c'est intéressant, là, pour le coup, parce que ça contredit un petit peu ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure, concernant le fait que, en décomposant par petits bouts, etc., les problèmes pour arriver à des problèmes plus simples, on perd de vue la vision générale. Justement, ce dernier principe dit qu'il faut garder, il faut pas perdre de vue la globalité du problème.
Ça, c'est intéressant.
Hein,
ça,
pour c'est garder intéressant. Le sens, bien sûr, de ce que l'on fait et de ce que l'on cherche à cerner, entre guillemets.
Mais ça, c'est intéressant parce que, typiquement, songeons à la façon dont nous autres, scientifiques ou techniciens, abordons notre temps. Par exemple, si on pense à la catastrophe écologique, la COP 21, COP 22, COP 23, COP 24, les hommes politiques se réunissent et disent « on va faire notre possible pour limiter les émissions à gaz à effet de serre pour pas que ça augmente plus que 2 degrés ou 0, je sais pas quoi ». Mais la question, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas perdu de vue la vision d'ensemble pour toujours se concentrer sur des objectifs chiffrés et dont on ne sait même pas finalement si on va pouvoir y arriver ou pas? Et quand on dit... peut-être ça peut éclairer aussi la phrase de Simone Veil qui dit qu'il y a un échec quelque part retentissant. C'est-à-dire que à force de voir les succès engendrés par cette méthode, on perd peut-être de vue la vision globale en se focalisant sur les parties.
Mais on peut dire aussi que peut-être des gens formés sans méthode utilisent des chiffres de façon fort peu scientifique.
Oui.
C'est pas parce qu'on utilise la mathématique et les chiffres qu'on est scientifique. On peut utiliser les chiffres pour faire de la numérologie, pour faire pour les arts divinatoires, etc.
Ouais. Et je pense aussi au sondage en politique, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, par exemple, lorsqu'on propose des sondages, lorsqu'on fait des statistiques et qu'on appréhende la société avec des chiffres qui impressionnent les gens qui les voient.
Alors, sans même s'être posé la question de savoir si les gens avaient une opinion avant qu'on leur pose la question.
Voilà, oui, déjà.
Et puis, qu'il faut bien voir, et justement, pour revenir à la méthode, Descartes nous propose un outil de travail, un outil pour construire nos connaissances. Après, c'est comme tout outil, hein, le problème, c'est aussi la façon dont on utilise ça. Il y a eu beaucoup de succès en utilisant cette méthode, puisqu'on peut dire qu'une grande partie des sciences et des connaissances qu'on a aujourd'hui finalement sont issus de l'application de cette méthode.
Alors un des grands succès, excuse-moi de t'interrompre Sylvain, un des grands succès c'est par exemple la médecine et l'allongement de l'espérance de vie. Et après on se dit une fois que les gens ils vont vivre 120 ans, 130 ans, 150 ans, qu'est-ce qu'on va faire de ça quoi.
Et voilà. Alors après voilà, donc on a un outil, toute la difficulté c'est est-ce qu'on l'utilise bien ou mal et comment on utilise cet outil. C'est donc ça. Effectivement les dérives qui peut y avoir aujourd'hui, comme tu disais, sur le problème, par exemple, d'écologie, il existe, il est là. Maintenant, est-ce qu'on doit l'imputer à René Descartes? C'est une autre question.
Oui, ça c'est la question dont on débat.
D'autant que pour revenir sur les histoires de COP 21, enfin etc. Il n'y a pas que l'enjeu scientifique dans malheureusement.
Il y a un enjeu humain bien sûr.
Il y a un enjeu humain, mais il y a aussi un enjeu politique et économique. Et alors là, on entre dans la sphère de l'économie et de la, voilà de mondiale. Et ça c'est un problème très très compliqué.
D'où la question qu'on peut se poser.
Qui est très loin de la philosophie, je crois.
Je ne crois pas qu'il est très loin de la philosophie. Au contraire. Je pense qu'on est en plein dans
la question de Platon. Voilà, on trouve les questions de la société.
Et donc, simplement, par rapport à cette méthode, Descartes nous dit, il nous dit quoi? Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leur plus difficile démonstration, m'avaient donné occasion d'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entretuivent en même façon. Et que pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes des autres, il n'y en peut avoir de si éloigné auquel enfin on ne parvienne, ni de si caché qu'on ne découvre. Alors, oui. Vous voyez, ça veut dire, Descartes nous dit, il n'y a rien qui est caché à la raison humaine qui ne soit pas atteignable.
Tout à fait, et pour revenir à l'économie, effectivement...
C'est si clair.
Juste pour revenir à cette histoire d'économie, l'économie. Je suis d'accord que ça rentre bien sûr dans le cadre philosophique. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est pareil, c'est quelles sont les motivations actuellement, on va dire, des personnes qui font l'économie, entre guillemets, ou du système économique que l'on a aujourd'hui. Et là, on pourrait du coup faire référence à la République de Platon, par exemple, qui essayait de construire une cité idéale, et etc.
Mais attention, parce que Descartes met quand même une limite. Il dit que à la raison, on permet d'accéder à toutes les connaissances, à toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes. Donc ça signifie que il y a peut-être des limites et que tout n'est pas forcément accessible à la raison.
D'accord.
Il y a déjà la question que puis-je connaître chez Kant qui pointe.
Alors, on voit que tu as pointé du doigt la direction dans laquelle va s'engager la philosophie, effectivement. La direction de réfléchir sur les limites, et évidemment Kant sera un repère des plus importants. Et cette question des limites, nous l'aborderons lors des prochaines émissions, où nous parlerons de cette question du rapport à la divinité, où quand Descartes va dire « je pense donc je suis », et... Pourquoi la nécessité d'un Dieu qui va être garant de l'existence d'une vérité qui seule va résister au doute? Voilà. Alors, je propose donc aux auditeurs de continuer la lecture du discours de la méthode et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite des Neveux de René.